Salut, je m'appelle Pauline, je suis passionnée de santé, je souffre de maladies chroniques inflammatoires depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je cherche, je teste et j'expérimente. J'essaie de comprendre pourquoi nous sommes atteints d'autant de maladies de civilisation aujourd'hui. C'est pour cela que je me suis intéressée à nos ancêtres pour mieux comprendre les maux de notre siècle. Cet épisode traite de façon assez large une multitude de sujets que nous aborderons plus en détail au fil des épisodes.
En même temps que le jeune veut manger des Big Mac, il s'angoisse d'avoir la moindre ride. C'est un pattern en fait. Il n'a pas envie de perdre ses cheveux, il a peur de la mort, il convoite une sexualité des monts et merveilles. On voit ici, surtout les, moi je suis anthropologue du corps, on voit qu'on ne doit pas lutter contre le fait que l'humain historiquement est omnivore. On doit lutter contre une civilisation actuelle, ça n'a rien à voir, qui est sur-hédoniste et qui néglige les limites.
Depuis 150 ans, on gagne tous les 3 mois en espérance de vie. Sauf que là, pas de doute, ça stagne. Les maladies de civilisation tuent et invalident plus de personnes que toutes les guerres et conflits ethniques réunis. Il ne s'agit pas seulement de bactéries et de virus pathogènes ou de parasites, mais d'une augmentation des maladies chroniques dégénératives. Malgré les avancées de la médecine, nous courons avec notre hygiène de vie vers une régression. Pourquoi ? Nous avons beau être au XXIe siècle, génétiquement nous sommes peut-être encore restés au paléolithique. Il faut se rappeler d'une chose, nous sommes des Homo sapiens. Seule espèce qui a colonisé la quasi-totalité du territoire terrestre.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cohen, je suis chercheur au CNRS. Nous sommes une espèce, Homo sapiens, avec des caractéristiques spécifiques.
Cette espèce, qui est la nôtre, est passée par 3 phases majeures. D'abord, le paléolithique. Pendant environ 2 millions d'années, l'homme a été chasseur, pêcheur et cueilleur. Les anthropologues soutiennent que le régime alimentaire de nos ancêtres a fortement influencé leur expansion neuronale et l'augmentation de la taille de leur cerveau. Ensuite vient le néolithique, il y a 10 000 ans. Cela ne fait que 10 000 ans que l'homme est devenu agriculteur, qu'il s'est mis à planter des céréales, à cultiver et à être sédentaire.
L'agriculture n'a pas disparu, l'agriculture est restée, mais par contre elle n'a pas remplacé toutes les techniques de chasse et de cueillette. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'agriculture forcément comme une stratégie de subsistance qui est meilleure ou plus évoluée que la chasse et la cueillette. Il est clair et net que l'agriculture n'est pas en soi une marque de progrès. C'est une autre façon de s'adapter dans des contextes donnés, avec d'autres difficultés. Mais effectivement, l'agriculture a fini par se développer considérablement parce qu'il y a eu une mécanisation de plus en plus forte de l'agriculture. Et là, on avance vers l'industrialisation. Mais l'agriculture en soi n'est pas en soi forcément un progrès et elle a des limites. Plus elle est mécanisée et plus elle est gérable, mais encore une fois, pas dans tous les milieux. Normalement, la circulation des virus est plus importante. Donc toutes les maladies infectieuses infantiles se sont largement développées à partir du néolithique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Ça veut juste dire que le réservoir qui permet au virus de se développer est devenu d'un coup beaucoup plus important pour ce qui concerne les virus qui ont pour hôte l'humain. Les virus et toutes les maladies de manière générale microbiennes.
Il s'agit d'une transition épidémiologique où les maladies infectieuses se développent en même temps que des périodes de disette.
Et là, tout récemment, la révolution industrielle. Les 100 dernières années ont vu un boom de l'industrialisation. Bien qu'elle soit essentielle pour le progrès humain, l'industrialisation a également donné naissance à des aliments ultra transformés, pas chers, et facilement disponibles pour soutenir une population croissante. Pensez-vous que notre corps a su s'adapter à tous ces changements ? Moi, je crois pas.
Donc l'industrialisation, c'est fin 18e siècle au Royaume-Uni et en France aussi, donc fin 18e, début 19e siècle. Donc on est sur 220 ans, c'est très récent. Et c'est un nouveau bouleversement dans l'histoire des populations humaines, comme l'agriculture, comme le néolithique. D'ailleurs, ceci fait office d'une nouvelle dénomination en géologie, l'anthropocène, et qui voit donc l'être humain progressivement s'ouvrir vers l'industrialisation. Et évidemment, c'est là où la question de la sédentarité massive et de l'accès de plus en plus important
à une alimentation calorique et industrielle, évidemment, on passe du tout au tout par rapport aux périodes de disette récurrentes dans une agriculture pré-industrielle. Et donc, effectivement, on peut se poser la question de l'adaptabilité des populations, l'adaptabilité bioculturelle des populations à des environnements, à des modes de vie plus obésogènes. Et donc, de maintenir quelque part, on le retrouve dans les populations africaines notamment, qui vivent l'anthropocène de plein fouet et qui passent donc de modes de vie pré-industriels à des modes de vie industriels en quelques décennies. Et donc, on voit cette valorisation de l'embonpoint qui persiste dans les zones urbaines alors que ces zones urbaines elles-mêmes sont devenues obésogènes. Et donc là, la question de l'adaptabilité se pose. En France, en Europe, dans le monde occidental, on l'a moins vécu parce que ça a été plus progressif. On est toujours en transition épidémiologique, mais il y a plusieurs phases dans les transitions épidémiologiques. Donc le passage à l'agriculture exprime une transition épidémiologique, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, cette relation entre famine, disette chronique et maladie infectieuse infantile. Et bien, le passage pour nous à l'urbanisation, c'est donc la surcharge pondérale et les maladies chroniques. Maintenant, on parle d'une autre transition épidémiologique qui est celle des allergies et le retour même des virus. Donc on a l'exemple évidemment du Covid. Parce que tout simplement, la vie microbienne s'adapte en réalité à la vie urbaine. Et donc, quand bien même nous avons des vaccins solides et on les fabrique, en réalité, ils s'adaptent à nos fabrications.
Pour citer Marion Kaplan, il faut s'adapter. Mais il faut le temps de s'adapter. Et le temps, l'a-t-on eu ? La physiologie de notre corps n'a pas vraiment évolué depuis le paléolithique. En revanche, notre alimentation a drastiquement changé. Depuis l'apparition de l'agriculture dans un premier temps, mais aussi et surtout avec le développement de la malbouffe. Il y a donc un décalage temporel entre nos gènes et notre environnement, ce qui explique le boom des maladies dites de civilisation. Maladies auto-immunes, cancer, obésité, diabète, et j'en passe. Mais qu'est-ce qui a changé ? À quel point notre corps dépend-il de cette nourriture que nous ingérons ? Par exemple, les MICI, maladies inflammatoires chroniques intestinales, ont augmenté dans des pays où elles étaient auparavant rares. Cela s'explique par le fait que l'occidentalisation est devenue un phénomène mondial.
Le vieillissement de la population peut exposer à des dérèglements de l'organisme beaucoup plus fréquents. Et donc, de fait, à partir de cette dynamique-là, tout ce qui est maladie neurologique et plus ou moins auto-immune, ce sont des maladies qui peuvent être liées tout simplement à des organismes qui s'épuisent, qui se dérèglent avec le temps, et ce sont souvent des maladies qui interviennent assez tard dans le développement de l'individu, mais pas toujours, je suis d'accord, pas toujours. On peut aussi se poser la question du stress, hein. Le manque de sommeil, le stress permanent peut aussi conduire à être un facteur de risque au développement de, par exemple, de maladies de Crohn que vous allez déclencher. Donc on parle d'ailleurs, là on est à l'ère de la psychosomatie de plus en plus, mais c'est-à-dire que psychosomatie, c'est pas l'hypochondrie, c'est-à-dire que la maladie est physique, mais liée à un état psychique. Maintenant, pour tout ce qui est maladie inflammatoire, pour tout ce qui est cancer, pour toutes ces questions, effectivement, il y a la question des pollutions. Il y a la question des additifs dans la nourriture. Il y a la question donc de tout ce qui est pesticides, etc. Donc pesticides, conservateurs, pollution, stress. Et effectivement, et donc les réactions allergiques à cet environnement-là qui va faire qu'effectivement, on parle maintenant, ceci fait office d'une troisième transition épidémiologique. Donc la transition vers de nouvelles formes de maladies infectieuses qui s'adaptent à la vie urbaine, associés à des allergies de plus en plus fortes, associés à des cancers de plus en plus prévalents, des maladies auto-immunes.
Beaucoup montrent leur indifférence à l'égard de leur santé. Seul le contact avec une maladie nous incite à penser réellement à nous, à notre équilibre, à notre corps. Il n'est pas nécessaire de se convaincre que ce que nous mangeons influence directement notre santé. Aujourd'hui, nous le savons. La nourriture nous apporte tellement d'éléments nécessaires à la création de nos cellules, de nos tissus. Elle participe même au processus de réparation. Une alimentation équilibrée a à la fois une influence préventive contre différentes maladies de civilisation et aide à s'en remettre. notre changement de nourriture et la baisse d'activité physique expliquent la hausse de certaines maladies chroniques, comme le diabète.
On pense que le métabolisme de stockage a une base génétique. Donc il y a une pression de sélection qui fait que certains allèles ont été sélectionnés plutôt que d'autres, des allèles qui codent pour le fonctionnement du métabolisme. Le métabolisme humain, il doit être équilibré. Donc c'est la différence entre ce que vous ingérez en énergie et ce que vous dépensez en énergie. Quand on a un métabolisme de stockage qui a tendance à stocker les graisses, d'accord, donc un métabolisme positif, ça veut dire que pour une quantité d'ingérence alimentaire, je vais stocker plus de gras dans mes adipocytes, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas ce métabolisme de stockage-là, qui a tendance à davantage l'utiliser directement. Donc certains individus vont utiliser plus rapidement l'énergie, alors que d'autres auront tendance à davantage la stocker. Et effectivement, dans un contexte de disette chronique, mieux vaut être capable de stocker. Vous savez tous ici que pour une assiette donnée, pour un régime alimentaire donné, certains prennent plus de poids que d'autres, on le sait bien. Et bien voilà, donc est-ce que ce type de réalité physiologique, avec une base peut-être génétique, ont pu faire office de pression de sélection? Maintenant, le phénotype économe, c'est la même chose que le génotype économe, mais il n'y a pas de génétique. C'est que tout simplement, si en tant qu'enfant, j'ai vécu dans l'environnement maternel, gestationnel, soumis à des carences sur un plan nutritionnel, early biology, biologie développementale, mon métabolisme se construit, tout ce qu'on développe tôt dans notre vie, on le garde en termes comme d'une mémoire, que ce soit sur un plan psychologique, que ce soit sur un plan biologique, ça devient un mode de fonctionnement à l'âge adulte. Par exemple, l'obésité infantile est un facteur de risque majeur de l'obésité à l'âge adulte. Plus vous avez été obèse tôt dans votre vie, et plus vous la garderez à l'âge adulte.
Voilà. Toutes ces maladies sont beaucoup moins fréquentes dans les communautés non occidentalisées. Depuis quelques décennies, la recherche en nutrition a permis une meilleure connaissance des habitudes alimentaires de nos lointains ancêtres et a démontré l'intérêt de s'inspirer de modes alimentaires dits méditerranéens ou paléolithiques. Ils sont vus comme anti-inflammatoires puisqu'ils visent à éliminer le sucre, les légumineuses et la plupart des produits laitiers, les céréales et les huiles végétales raffinées. Mais alors, comment se nourrissaient nos ancêtres avant l'agriculture ?
Évidemment, le rôle de l'alimentation est majeur. Mais pas seulement par rapport, c'est-à-dire que c'est compliqué de répondre, de dire qu'est-ce que l'alimentation au paléolithique, c'est tellement vaste. Ce qu'on peut juste savoir, c'est que l'alimentation telle que nos ancêtres, si je peux le dire ainsi, ont connue, est très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu différentes étapes, il y avait un végétarisme encore assez fort. Et même si on observe que toutes les espèces de primates peuvent être légèrement carnivores, en réalité elles sont plutôt omnivores. Donc si on remonte loin dans l'histoire de l'hominisation, très loin à ses débuts, il y a un régime plutôt omnivore, mais avec une grosse composante végétarienne. Et finalement, plus nos ancêtres étaient en mesure de pouvoir maîtriser leur environnement, grâce à la capacité à construire des outils, et plus il a été possible d'accéder de plus en plus à la viande. Cette réaction de ne pas vouloir manger du tout de viande, etc., c'est une réaction qui n'est pas vraiment liée à l'histoire. Les populations qui mangeaient moins de viande avant ne le faisaient pas parce qu'elles le souhaitaient. Elles n'en avaient pas le choix. Et quand elles ont pu avoir ce choix, elles l'ont fait.
Nos ancêtres n'étaient ni végétariens, ni carnivores, mais omnivores. Le régime alimentaire était très large et fortement influencé par le lieu et la disponibilité de la nourriture. Il est clair que les humains de l'âge de pierre mangeaient une variété d'aliments de haute qualité qui étaient riches en nutriments et en fibres, alors qu'aujourd'hui, c'est riche en calories mais pauvre en nutriments.
Donc voilà, il faut faire attention à ne pas tomber dans les excès, même si nous savons que notre mode de vie sédentaire, obésogène, stressant, polluant, etc., est un mode de vie allergène, est un mode de vie qui nous expose à des maladies et qui même fait office d'une troisième transition. On verra ce qui va se passer, comment nous allons sortir des pièges de l'urbanisation, c'est le grand enjeu du XXIe siècle, et on y travaille tous, et on verra comment arriver à trouver des modes de vie plus équilibrés, on y pense tous très largement déjà. Bon, le but ne sera pas non plus de vivre comme des chasseurs-cueilleurs. L'industrialisation, ça existe, ça n'a rien d'être dans un rejet total de tout ce qui est industrie, et de toutes les conséquences, mais on ne peut pas non plus imposer cette industrialisation partout en pensant que c'est la seule solution possible.
Ce que montre le régime paléo, finalement, c'est d'avoir une alimentation saine. Il ne s'agit pas pour autant de revenir en arrière. Alors comment sortir des pièges de l'urbanisation sans forcément devoir s'éloigner de notre société ? Voilà, c'était le premier épisode, une sorte de teasing. Nous approfondirons tous ces sujets plus en détail à travers nos futurs podcasts. Pour finir, voici en quelques phrases ce que vous pouvez retenir de cet épisode. Il ne s'agit pas de retourner à notre mode de vie ancestral, mais d'essayer de se questionner sur notre hygiène de vie actuelle qui a énormément évolué en 200 ans, entraînant malheureusement des maladies dites de civilisation. Mais ce n'est pas une fatalité car nous pouvons, en tout cas nous pouvons essayer, de changer nos habitudes alimentaires. Vous découvrirez au fil de nos épisodes des clés pour améliorer votre hygiène de vie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et si tu souhaites nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre nos projets, n'hésite pas à nous rejoindre sur Insta, LinkedIn ou Facebook, nous répondrons à tes messages. Merci à notre invité Emmanuel Cohen. On espère que ce premier podcast t'a plu. N'hésite pas à nous dire quel sujet tu aimerais qu'on aborde dans les prochains épisodes. En tout cas, on se retrouve bientôt autour d'un nouvel épisode sur l'évolution du microbiome intestinal.